à portée de mots. La musique et les lettres. Avec Axel Thierry sur Musique 3.
Bonjour, Axel Thierry au micro, bienvenue dans cette émission sur la musique et les lettres. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Yves Clément. Bonjour.
Bonjour et merci.
Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à Delphine du studio In Situ. Nous sommes en duplex aujourd'hui. Merci à Thierry Lequeux qui assure le relais à Bruxelles, à Reyers. Alors Jean-Yves Clément, nous allons parler de Chopin et de Liszt. Vous signez récemment un livre qui s'intitule Chopin et Liszt, la magnificence des contraires, paru aux éditions Première Loge. Alors tout d'abord, un petit mot de présentation. Vous êtes poète, écrivain, éditeur, philosophe, pianiste, musicologue, directeur artistique de festivals, dont le Festival de Nohant, chez Georges Sand également. Vous êtes lié à un festival consacré à Liszt aussi. Hein.
Listomania, que j'ai entièrement fondé, créé.
Voilà, voilà. Vous êtes aussi journaliste et critique musicale pour la revue Diapason et France Musique. Et vous êtes également président de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Alors, vous avez écrit...
Oui, à Mons.
Oui. Oui,
vous avez... très, très heureux.
Magnifique. Vous avez écrit plusieurs essais sur la musique, des recueils de poèmes, d'aphorismes. Et donc aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Chopin et de Liszt avec ce livre, La magnificence des contraires. Alors, Jean-Yves Clément, si on parlait tout d'abord du titre, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Alors déjà, je voudrais rappeler que j'ai écrit plusieurs livres sur Chopin et un livre sur Liszt, donc ma rencontre avec eux ne date pas d'hier, si je puis dire. Oui, je trouvais ça joli comme titre, évidemment, puis ce mot de magnificence, à la fois les rassemblait et disait bien l'ambiguïté de leur rencontre à tout niveau et de leur différence, mais aussi de leur complémentarité, en fait. C'est assez magique qu'en 1810 et 1811 soient nés ces deux-là, qui finalement ont exploité le même piano, mais qui n'est pas le même, pour faire une musique qui se ressemble, mais qui est quand même très différente l'une de l'autre, et qui ont eu une vision de la vie radicalement contraire, en fait. Donc c'est tout ça que je voulais réunir dans un même livre, et j'étais très étonné quand je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne l'avait fait. Pour d'aussi grands génies, ça semblerait évident et coulé de source, mais en fait, personne n'a réuni ces deux-là dans un même livre, et sans doute parce que les musicologues un peu spécialistes de l'un ne ressemblent pas du tout à l'autre camp. Et qu'en fait, souvent, et ce n'est pas mon cas précisément, mais quand on est chopinien, si je puis dire, on n'est pas listien. C'est un peu comme le PSG et Marseille. C'est difficile d'être des deux camps à la fois, vous voyez.
Oui.
Mais moi qui ai créé un festival entièrement consacré à Liszt et qui dirige un autre festival, vous l'avez évoqué gentiment, plus ou moins entièrement consacré à Chopin à Nohant, il était temps pour moi de dire ce que je contenais de ces deux-là en moi, comme dit Faust, j'ai deux âmes en ma poitrine. C'est un peu cette histoire qui m'est tombée dessus et que je rappelle d'ailleurs en préface.
Oui, voilà, c'est une image magnifique. Hein. Vous évoquez deux frères flamboyants aussi. Et quand on regarde la couverture, Jean-Yves Clément, et qu'on voit leurs deux profils très proches, ça fait penser aussi à des frères, en fait. On dirait qu'ils se respirent l'un l'autre. C'est vraiment très beau. Mais... vous parliez donc de deux âmes dans votre poitrine. L'image est tellement belle. Est-ce que vous pourriez la développer et expliquer pourquoi il y a cette intimité avec eux ?
C'est difficile parce que cette citation, je la prends dans Faust de Goethe, donc c'est un peu chargé. J'ai deux âmes en ma poitrine. Et dans Faust, c'est deux âmes très, très opposées, très contraires. Et c'est le diable et le bon Dieu, si on veut. Moi, évidemment, il ne s'agit pas de ça, puisque ces deux âmes, je les trouve très complémentaires. En même temps, je les porte en moi, d'où l'image, depuis toujours presque. J'ai connu Liszt peut-être par Chopin, dans l'ordre des choses, ça s'est fait comme ça. En même temps, ce sont deux compagnons de route depuis déjà un certain nombre d'années. Et je ne m'explique pas la raison de ce compagnonnage, je ne sais pas comment on dit. Mm-hmm. C'est assez mystérieux. En fait, ça m'est tombé un peu dessus. Donc, ils sont tous les deux en ma poitrine. Je les aime tous les deux pour des raisons très différentes. Pour autant, je ne saurais pas dire pourquoi. Je sais simplement un comment. C'est que ça m'est venu par Georges Sand, en fait, dans la mesure où c'est à Nohant. Et c'est parce que Liszt y est venu aussi que je me suis intéressé de façon plus profonde à Liszt. Avant, j'étais plus purement chopinien, pour reprendre mon image.
Et elle a des écrits merveilleux pour raconter ça avec Liszt qui l'écoute, avec elle qui écoute Liszt jouer. Oui. Elle a des mots merveilleux. Oui. Hein. Alors, si on rentrait.
Elle est géniale. Oui. Elle a connu les deux. Elle, il faut rappeler ça, évidemment. Elle a vécu 9 ans avec Chopin. Donc, voilà. Mais Liszt était son ami intellectuel, si je puis dire. Elle a partagé beaucoup plus de choses avec lui qu'avec Chopin, finalement, de ce point de vue-là. Oui. Et elle parle admirablement des deux pour des raisons différentes, à des endroits différents aussi. Effectivement, donc, c'est un témoin plus que privilégié.
Et Franz Liszt et George Sand étaient tous les deux des penseurs aussi.
Oui, c'est ça. Aussi des espèces de philosophes, des gens. Alors ça, c'est ce qui les rapproche et qui les détourne complètement de Chopin, qui était pleinement dans la vie. C'est-à-dire des gens pour qui, et c'est ce qu'elle reprochera aussi à Flaubert, Sand, l'art ne doit pas prendre toute la vie. L'art doit entrer, doit faire partie de la vie, mais ne doit pas, en quelque sorte, la remplacer. Pour elle, ça, c'est un crime contre nature, et je la suis entièrement, d'ailleurs. Et Liszt, c'est un peu la même chose, qui a une vie extraordinaire, qui fait rentrer dans son piano toutes sortes de choses, et qui n'est pas simplement un génial compositeur, mais quelqu'un vraiment de plus important, comme Sand n'est pas simplement un écrivain. Alors que Chopin, mais c'est pas un défaut, c'est une différence. Il y a quoi dire de mal sur Chopin, c'est un des musiciens les plus précieux de toute l'histoire de l'humanité. Mais Chopin, lui, est rivé, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans cet essai, et enfermé dans son seul piano. Sa vie, son monde, à part de 3 autres choses, bien sûr, c'est quand même exclusivement son art et son piano. Chopin n'est pas vraiment dans la vie comme les deux autres. C'est là que la différence est très importante, dans la façon de voir cette vie, notre vie.
Et ils ont un rapport différent avec le piano aussi, vous le montrez aussi dans votre livre. D'abord, ce n'étaient pas non plus les mêmes pianos, ils cherchaient autre chose dans leurs instruments.
Exactement, et puis alors je faisais la référence tout à l'heure au football, on pourrait la faire avec les écuries d'automobiles, parce qu'à l'époque, ces gens-là étaient pris comme aujourd'hui des grands sportifs, c'était des idoles planétaires incroyables, il faut essayer d'imaginer ça. Il faut relire les articles de la venue de Liszt à Lyon, par exemple, il est accueilli comme Barack Obama, si aujourd'hui il venait à Marseille, puisque je parlais de Marseille tout à l'heure. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Et Liszt défendait, si je puis dire, la marque Erard, quand Chopin défendait la marque Pleyel, qui sont deux types de pianos très différents. L'un beaucoup plus large de spectre sonore, beaucoup plus orchestral, beaucoup plus totalisant, c'est celui de Liszt, qui va y mettre le monde entier. Et l'autre beaucoup plus délicat, plus raffiné, plus fin, mais plus modeste aussi, c'est le piano de Chopin. Donc les instruments sont déjà les mêmes et pas les mêmes pour servir un idéal esthétique très différent, purement pianistique pour Chopin, et théâtral, opératique, orchestral, littéraire pour Liszt.
Oui, qui va jusqu'à la transmission. Il y a un côté messager aussi. Il était mystique aussi, Liszt.
Il y a tout, oui, absolument. Il y a un côté transcendant, mystique, transmetteur. Il invente cette façon d'enseigner le piano avec une communauté d'élèves autour de lui, ce qu'on appellerait la masterclass aujourd'hui ou l'académie. Il invente la façon, évidemment, de se mettre en scène tout seul, le one-man show, le récital. C'est la rockstar avant l'heure. Et il invente beaucoup de choses. Il invente le festival aussi. Il a tout inventé de la conception moderne de la musique. Liszt étant toujours en ouverture, en devenir, le contraire absolu de Chopin, qui ne fait que du Chopin dans un seul piano, qui touche à rien d'autre et qui fait ces espèces de fleurs merveilleuses comme poussées en serre, ces espèces de miracles d'orchidées extraordinaires, mais il ne fait que ça. Et c'est pas, encore une fois, un défaut. Alors que Liszt fait tout. Il est tout. C'est une espèce de dieu. Et d'ailleurs, alors ça fait partie de mon livre, ce qui est très flagrant, c'est que Liszt aussi a eu le temps d'épanouir toutes ses qualités, puisque tout allant avec tout, Liszt a une vie incomparablement plus saine, plus physique, plus des qualités de corporelles sans doute extraordinaires, qui fait qu'il déploie une énergie absolument incomparable. Liszt, c'est 2 fois la vie de Chopin aussi. Donc Chopin meurt à 39 ans, et Liszt meurt presque 2 fois plus âgé, ce qui permet quand même aussi de déployer autrement ses ailes. Et ce qui est troublant, c'est que Liszt devient un grand compositeur à la mort de Chopin. Avant, il est surtout le pianiste que l'on sait. Donc vous voyez, tout ça est tellement à la fois symétrique, différent, complémentaire, c'est assez troublant en fait quand on le regarde de très près, comme j'ai essayé de le faire.
Et alors Jean-Yves Clément, vous montrez comment Chopin va influencer Liszt, comment l'œuvre de Chopin va aussi influencer Liszt.
Oui, moi je pense que Liszt est un être, alors c'est paradoxal, mais la vie n'est que paradoxe, est un être complexé au fond. Il est d'extraction beaucoup plus simple que Chopin, il développera beaucoup de complexes, et c'est pour ça qu'il sera un boulimique de culture et qu'il avalera dans sa jeunesse toutes sortes de choses musicales, littéraires, philosophiques, etc. pour devenir ce qu'il pense ne pas être. Et donc, après, il est le pianiste que l'on sait, révolutionnant tout, emmenant les gens dans une forme de concert nouvelle, transmettant, mais tout ça lui prend tout son temps. Et jusqu'à la mort de Chopin, il n'est carrément pas, presque pas compositeur. Et peut-être qu'il se l'interdit de l'être en même temps. C'est là qu'il se passe quelque chose aussi de l'ordre du complexe, si je puis dire simplement. Et le fait est qu'à la mort de Chopin, Liszt, alors ça coïncide avec d'autres choses dans la vie de Liszt, mais n'empêche que ça correspond à la mort de Chopin. Liszt commence à être l'immense compositeur que l'on sait. Et ce qui est très troublant et que je démontre dans mon livre, c'est qu'il se met à écrire des pages au titre listien, au titre chopinien, je m'y perds moi-même. Vous voyez, il écrit des ballades, des polonaises, une mazurka, il écrit des nocturnes, il s'empare des formes de Chopin, consciemment ou pas, pour commencer à être l'immense compositeur qui va être, et peut-être qu'il n'osait pas affirmer à ce point avant que Chopin meure. Mais ça se passe à un niveau d'inconscient, à mon avis, auquel on ne peut pas accéder, nous. C'est pas forcément du conscient, oui. Même pour Liszt. Oui.
Mm-hmm, tout à fait. Et alors, il y a aussi, au niveau de l'esthétique et de l'originalité de leur musique, vous parlez un moment de l'art de l'ellipse chez Chopin, et du regard que porte Franz Liszt sur certaines pièces de Chopin, comme les préludes, par exemple. Mmh. Ça, c'est fort intéressant aussi, parce que les mots de Liszt sont formidables aussi. Hein.
Oui, Liszt est un écrivain merveilleux, et je rappelle, et ça fait partie du fil rouge de mon livre, que Liszt a écrit un livre, évidemment, encore une autre pierre, dans son édifice spirituel, il écrit un livre sur son ami Chopin. Dès que Chopin meurt, en fait, il s'empare un peu de sa mémoire, si je puis dire, pour écrire un livre assez réussi poétiquement et qui dit des choses assez profondes et d'autres peut-être plus anecdotiques. Enfin, un livre assez complexe où il se met en scène lui également et il parle de Chopin avec beaucoup de finesse. Il parle surtout de ce qu'il y a de polonais dans l'œuvre de Chopin, ce qui lui échappe à lui, évidemment, donc de l'ordre des danses traditionnelles, des mazurkas, des polonaises, et c'est très étonnant, cette dévotion qui rend à ce moment-là à son ami avec des mots. Et comme rien n'échappait à Liszt, oui, les œuvres de Chopin l'ont fasciné, en particulier les préludes, qu'il révisera lui, et puis beaucoup d'autres choses. Évidemment, parce que n'oublions pas que Liszt a joué Chopin, alors que Chopin n'a jamais joué Liszt. Liszt jouait tout le monde, à une époque où personne ne jouait personne, où on se jouait surtout soi-même. Si, on jouait un peu Beethoven, Mozart, mais pas trop. C'est surtout Liszt qui l'a fait, et beaucoup, et entièrement, pour faire connaître ses génies. Et ça, ça fait partie de ses facettes extraordinaires, bien sûr.
J'ai une phrase en tête. Est-ce que Chopin n'aurait pas dit « Je voudrais lui voler la manière de jouer mes études. Il me transporte hors de mes idées honnêtes. » Et on la retrouve dans votre livre aussi, cette phrase de Chopin.
Oui, puis j'aime bien le côté idée honnête. On sent qu'il y a un côté presque moraliste chez Chopin et qui se voit un peu pillé, mais de façon géniale, par son ami. Parce que Chopin lui dédie ses études que personne à l'époque, sans doute, n'aurait été capable de jouer comme Liszt et que Liszt va créer, va transcender par son interprétation. Et Chopin a besoin de ce messager. Il n'est pas fou. De la même manière qu'il va le dédier son deuxième cahier d'études, ces espèces de pièces qui révolutionnent la technique et la poésie du piano, à la compagne de Liszt, Marie Dagout, qui est fascinante dans ce quatuor qui constitue un peu l'essence aussi du livre, c'est-à-dire constitué de Chopin, Liszt, Marie Dagout et Georges Sand. Il y a deux hommes, deux femmes, avec là aussi des symétries, des deux écrivaines. C'est très troublant. Mais oui, Chopin devait être fasciné. Oui, c'est troublant, vraiment. C'est étonnant. Et bien sûr que Chopin a été fasciné par la façon dont Liszt rendait la musique en général, et la sienne en particulier. Même s'il y a quelque chose qui l'effrayait dans Liszt. parce que tout effrayait Chopin, à vrai dire. tout ce qui débordait du cadre, tout ce qui était trop moderne pour lui. Chopin, c'est un classique, c'est un pudique, c'est un réservé. Donc, comme son ami Delacroix, qui lui pourtant est quand même un sauvage, mais néanmoins, ils partagent tous les deux de façon quasi pudibonde le fait que dans la musique, il n'y a que le classicisme, qu'après Bach et Mozart, fermez le banc et on n'aime pas Delacroix, on n'aime pas Berlioz, pardon, qui est une espèce pourtant de Delacroix, mais on ne l'aime pas du tout, il est moderne, il est un peu ravagé. On n'aime pas les débuts de Verdi, de Wagner, on n'aime rien de moderne, ni même de contemporain. On n'aime guère Schumann, on n'aime personne. On aime Bach et Mozart. Ça, c'est l'art de Chopin. C'est l'univers esthétique, la philosophie de Chopin. Un monde très mesuré, et parfait, et extraordinairement unique.
Oui.
Aussi.
Et qui est capable de violence aussi.
Absolument, c'est le paradoxe qui lui échappe peut-être à lui. C'est une œuvre par moments, en particulier oui, dans certains préludes par exemple, extraordinairement violente. Oui. Ah oui, il y a même une nouvelle violente, une nouvelle violence à mon avis, malgré Beethoven, si je puis dire, que Chopin découvre, qui lui est révélé à lui-même, qui l'effraie lui-même. Et c'est extraordinaire comme le piano s'anime d'intentions nouvelles et modernes chez Chopin. Mais c'est une violence, c'est un romantisme, hein, c'est toujours très maîtrisé, qui ne déborde jamais. C'est ça qui est fascinant. C'est vraiment de la dynamite, mais dans une forme raisonnée, raisonnable et tenue. Vous voyez, c'est ça, que c'est la marmite ne déborde jamais chez Chopin. Il est hors de question qu'elle déborde. Donc les effets sont tenus, mais ça rend la violence d'autant plus violente, quelque part.
Des canons sous les fleurs, disait Chopin.
Voilà, très bien, très bien. Ça, c'est une phrase qui convient effectivement concernant Chopin. Et c'est Schumann qui l'a dit, oui. Il disait même que le tsar de Russie de l'époque ferait bien de s'inquiéter à écouter la musique de Chopin, parce qu'il y trouverait des canons sous les fleurs. C'est assez génial comme métaphore.
Thank you.
Alors, vous l'avez déjà effleuré à diverses reprises, c'est le grand cœur des deux, hein, évidemment. Mais aussi de Franz Liszt, quand il joue la musique des autres, corps et âme à 100%, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé les entendre aussi, hein, jouer. Et puis, quand il fait des transcriptions, quand il donne tous ses concerts aussi, tout ça est dans votre livre aussi, hein. Dans les prisons, et puis pour des causes philanthropiques, enfin, c'est quel cœur aux dimensions cosmiques. Ce qui ne veut pas dire que celui de Chopin l'est moins, hein. C'est pas ça du tout, hein. Mais voilà.
C'est un autre type de cœur, c'est pas du même ordre, c'est encore une fois un être tourné vers lui-même, Chopin, mais c'est pas pour en dire du mal, à chaque fois je suis obligé de m'excuser. Liszt est entièrement tourné vers les autres, c'est la différence entre le centripète et le centrifuge, c'est exactement la même chose. Donc Liszt, oui, il invente tout, il invente l'humanitaire, il emploie même le mot, alors qu'il a même pas 25 ans, et toute sa vie il va donner des concerts philanthropiques, de charité, il va continuer même après qu'il ait cessé la carrière, puisque je rappelle que Liszt cessera la carrière à l'âge de 35 ou 36 ans, alors qu'il aurait pu devenir une espèce d'idole telle qu'il était déjà, mais encore bien plus, de façon bien plus accrue, mais qui s'y est refusé, il en a vu le danger, le problème, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu être le compositeur qu'il a été. Et plus jamais Liszt n'a donné un concert public. Donc toute la seconde moitié de sa vie était dans le renoncement, c'est le cas de le dire, et oui, à tout niveau. Mais les concerts de charité, il a continué à en donner dans toutes sortes d'endroits, vous l'avez dit, prison, hôpital, il a inauguré des crèches, tout et n'importe quoi. Pour lui, le don était l'essence même du geste artistique.
Et la dimension les salles de concert qui vont à l'un et à l'autre sont toutes différentes. Hein. Vous montrez aussi comme Liszt, bon, on a l'impression que c'est parfois, on ne va pas dire l'hystérie, parce qu'il y a des connotations négatives, mais bon, il met les gens dans des états incroyables. Et Chopin,
ça l'est quand même.
Oui, c'est ça.
Il invente ça. Vous savez, si Heinrich Heine invente le mot de listomanie, que j'ai moi détourné en créant mes Listomania, mon festival, c'est pour cause, il a raison. Liszt est le premier à déchaîner ce type de comportement chez les femmes, et peut-être pas simplement chez les femmes, que sais-je. Et il y a tout un fétichisme, Liszt. Et c'est vrai que personne n'a jamais vu ça. Et que sur scène, il en rajoute, Liszt, et il fait tout pour donner cette image aussi de lui. Mais le paradoxe, c'est qu'il faut attirer les gens comme ça, pour pouvoir en même temps leur faire entendre de la vraie et de la bonne musique, et de sortir du cirque aussi. Parce que dans le même temps que Liszt invente cette façon d'être, il s'en moque, il la critique et il s'en plaint dans ses lettres. D'être une sorte de valet, de ménestrel, de saltimbanque, vous voyez, il en voit d'emblée la limite. Et il sait qu'il va arrêter un jour la carrière, et seulement, je le répète, à 36 ans. Mais avant, faut déchaîner les foules, faut attirer l'attention, faut inventer cette façon d'être, parce qu'après tout, c'est aussi une manière spectaculaire, certes, mais une manière légitime de donner à entendre de la musique et d'en faire. Et c'est pour ça qu'il fait aussi du piano orchestral, Liszt. Chopin, c'est beaucoup plus intime, c'est la confidence, c'est plus le salon. Rappelons-nous qu'à cette époque, la musique se faisait largement autant dans les salons des bourgeois aristocrates que sur les scènes de concerts qui n'existaient pas vraiment. Liszt a été le premier à jouer à la Scala de Milan devant 3000 personnes. Ça n'existait pas, ça. C'est une invention de Liszt en 1840. Après, il y a toutes ces... Il a inventé les tournées invraisemblables, il avait un impresario, il faisait distribuer des fausses biographies de lui sur les sièges, enfin, c'est hallucinant d'être de Liszt.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans ses biographies ?
C'est prophétique. Je ne sais pas, il devait en rajouter sur le côté pauvre musicien de cigane, d'extraction modeste, qui arrivait en France à 12 ans, comme c'était le cas d'ailleurs, et je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si on a retrouvé ces fausses biographies.
Et alors, il y a dans ces lettres d'un bachelier Smizik une description de ce qui se passe dans les loges de la Scala de Milan. Mais j'invite tous les auditeurs, auditrices à se précipiter, non seulement pour acheter votre livre, mais aussi pour aller voir ces descriptions qui sont vraiment savoureuses.
Ah. Et qui sont très drôles. Il y a des critiques musicaux, il y a des critiques des conservatoires qu'on pourrait reprendre in extenso aujourd'hui. On s'aperçoit que les temps n'ont guère changé, que les gens sont restés les mêmes, ont les mêmes réflexes. Et en plus, c'est un style très drôle, quoi. Il faut lire ça, oui.
Et comme vous le dites, Chopin est plus pour une salle plus réduite. Il est comparé à Raphaël. Il y a un très beau mot aussi, une très belle phrase sur Chopin. Quelqu'un qui lui dit « Vous ne jouez pas du piano, vous jouez de l'âme ». Est-ce que vous avez envie de développer un peu cet aspect-là ?
Oui, alors bien sûr, c'est pas le même piano, c'est pas les mêmes possibilités techniques aussi, c'est pas la même projection sonore, même si Chopin était un virtuose considérable, hein, mais c'est pas un virtuose ébouriffant, c'est pas un virtuose qui est animé d'une énergie incommensurable comme l'était Liszt. C'est quelque chose d'autre, c'est entre Mozart, Schubert et puis ce monde sonore nouveau qui, et harmonique surtout que Chopin invente, mais c'est un art des discrétions et de la réserve. Liszt fait entrer l'opéra dans le piano. Il transcrit Don Giovanni, transcrit la Norma, toutes sortes de paraphrases, comme il le dit, qui sont faites pour sidérer, pour séduire, pour impressionner, et qui sont quand même de la très bonne musique, et très moderne à plein d'écarts. Mais Chopin, c'est le pur des purs. Ça n'a rien à voir. Donc il n'est pas là pour séduire. De toute façon, Chopin, il n'aime pas le concert. Il faut remettre les choses à leur place. Chopin, ce n'est pas un virtuose de concert. Le mythe du cliché, le cliché du héros romantique virtuose ne va pas du tout à Chopin, il ne va qu'à Liszt. Liszt a donné peut-être plus de 1000 concerts dans sa vie. Chopin en a donné même pas 30, vous voyez, si on met tout bout à bout. Donc il n'y a pas d'homme de concert chez Chopin. Ça n'existe pas vraiment. Au début, il est obligé de le faire pour faire connaître ses œuvres, ses concertos. Pour se produire, pour être reconnu en plus à Paris quand il part de Varsovie. Il le fait beaucoup, enfin beaucoup, un petit peu à Varsovie. Mais après, ça s'arrête et très vite, il veut plus, et il peut plus physiquement. Vous voyez ? Donc c'est totalement là aussi l'antithèse de Liszt.
Oui. Et vous montrez aussi comment ils sont devenus artistes. Jean-Yves Clément, il y a la formation, il y a le côté familial. Et, oui. et ce n'est pas du tout la même enfance. Du coup, le départ ne va pas du tout avoir la même signification pour l'un et l'autre.
Oui. Non, mais le but de cet essai, c'est de les suivre en parallèle tout le temps. Ce qui n'est pas très facile à réaliser, d'ailleurs. Et puis de voir les croisements, les passerelles possibles à chaque fois qu'on peut. Oui, ce n'est pas la même enfance, donc ce n'est pas la même façon d'être. Après, Liszt, tout de suite, est amené à voyager par son père, qui est une espèce de... comme le père de Mozart, d'entremetteur, mais nécessaire. Il lui fait connaître très vite Czerny, le disciple de Beethoven. Il rencontre même sans doute Beethoven. Il va à Vienne très vite, il prend des cours. Il se prépare à la carrière, Liszt. Et à 12 ans, il est en France, vous vous rendez compte. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Chopin reste cloîtré, si je puis dire, dans sa Varsovie natale, jusqu'à 18 ans. Il ne voyagera qu'après, et comme un exilé, avant d'arriver à Paris, un an après, facilement, parce qu'il y est obligé aussi, par les circonstances politiques, par l'insurrection de Varsovie, qui va exploser en 1830. Mais après, c'est une vie d'errement, d'égarement, très difficile pour Chopin, avant d'atterrir à Paris. C'est quand même un exilé abandonné de sa famille, dont il est très choyé, donc c'est une souffrance. Chez Liszt, c'est pas une souffrance, c'est son destin. C'est une espèce d'exilé comme ça, voyageur, battleur, qui va frayer tous les pays de l'ancienne Europe. Personne n'a pu faire ça, ne fera ça d'ailleurs après pendant un bon moment, de son piano. Son piano est une monture. Chez Chopin, le piano, c'est un refuge. Donc c'est pas du tout du même ordre non plus. Mais Liszt reviendra en Hongrie d'ailleurs. Chopin reviendra jamais en Pologne. Même s'il aurait peut-être pu, il restera cet exilé à Paris comme à Nohant, avec cette escapade de Majorque. Enfin, c'est toute une vie aussi.
Oui, mais il avait hésité donc, quand il était parti et qu'il y a eu l'insurrection. Il y a eu toute une nuit avec un ami, si je me souviens bien, où il hésitait à rentrer. Et son ami lui a dit, mais non, tu dois faire connaître ta musique. Et c'est dans ta musique que tu défendras la Pologne. Il y a tout un côté héroïque aussi, véritablement, à sa manière.
Oui, intériorisé, mais il y a un côté aussi culpabilité chez Chopin. Il se sentira toujours coupable, en fait, d'être parti et d'avoir quitté les siens. Il en souffrira énormément. Et il souffrira aussi du déchirement de la Pologne sous la botte russe. Et donc, mais il mettra sa révolte, effectivement, dans sa musique, qui est particulièrement dramatique. Il inventera pour ça le genre de la polonaise qui est une façon politique de manifester son attachement à la Pologne en faisant que de la musique. C'est quand même admirable et c'est très nouveau. Et donc, il y a un héroïsme chez les deux. Mais oui. C'est pareil, c'est comme le reste. C'est, il n'est pas forcément de même nature, cet héroïsme. Mais il fait partie à part entière du romantisme, de toute façon, depuis Beethoven.
Oui. Et alors,
qui est le père spirituel de Liszt. Oui. Il ne faut pas oublier l'humanisme, la vision comme ça, très grande de l'humanité, l'orchestre, etc., la grandeur. Pour Liszt, ça vient de Beethoven, qu'il adulera. Chopin ne vient pas du tout de Beethoven. Ses références sont ailleurs, on l'a dit.
Oui, oui, tout à fait. Et alors, au moment où ils arrivent à Paris, Chopin est déjà un génie reconnu. Et Liszt est un compositeur de concert. Et alors, il y a le côté improvisation aussi chez lui. Donc, c'est déjà très différent à ce moment-là.
Les deux sont des improvisateurs géniaux. Mais Liszt s'en sert à part entière en concert. Il invente cette façon, à la demande du public, d'improviser sur n'importe quel thème. Sur demande, ça c'est vraiment une nouveauté, c'est aussi une chose qui lui est propre.
On devrait en faire ça.
Bon, on le fait un peu, il y a des gens qui depuis ont repris cette façon d'être, mais pas de manière aussi exubérante, mais le premier des... Mais vous savez, toute l'histoire de la musique est jonchée de, si je puis dire, d'improvisateurs. Bach, Mozart, Beethoven sont des improvisateurs de génie. Souvent, les compositeurs sont des improvisateurs. Debussy, vous continuez cette chaîne des pianistes, Rachmaninov, Scriabine, tous ces grands-là étaient des improvisateurs de génie. Donc la musique, c'est aussi, ou d'abord, de l'improvisation. Et même chez Chopin, mais pas tellement en concert, plutôt dans les salons, puis comme ça, de façon secondaire. L'improvisation, on l'entend tout le temps chez Liszt, elle est là par nature. Chez Chopin, c'est un moyen, c'est une façon d'être, de raconter des petites histoires, parce que tous les deux ont un génie tel que... Quand on est un musicien génial, on est forcément improvisateur, oui.
Jean-Yves Clément, vous parlez aussi de leurs parents, de leur mère et de leur père. Donc voilà, la mère de Chopin qui était musicienne, mais qui reste en Pologne. La mère de Liszt qui, à un moment, va être à Paris. Donc vous montrez un petit peu ce qu'ils vivent aussi avec leurs parents. Et l'influence des pères aussi.
Oui. Oui, bien sûr. Mais les deux ont eu des enfances quand même un peu protégées et choyées. Donc tout vient pas de là non plus. Et puis il n'y a pas un enfant battu, un enfant... Non, c'est pas du tout ça qui se passe. La chance de Liszt, c'est que ses parents l'ont suivi, l'ont accompagné. Son père est mort quand il a eu 14 ans, je crois, à Boulogne, en France. Et sa mère a continué d'être près de lui. alors que Chopin, ses parents, sa famille restent en Pologne, alors que son père est français quand même. Il y a des racines de Chopin en France. Il aurait pu aller voir de la famille, d'ailleurs, sans doute qu'il n'a jamais essayé de connaître Chopin, parce que rappelons qu'il est quand même presque franco-polonais par essence.
Oui.
Donc c'est très différent. Après, ils ont tous les deux des mères aimantes, je pense. Et là, donc il n'y a pas de manque de ce côté-là, si je puis dire, pour faire de la psychanalyse de bazar.
Mmh.
On devient ce qu'on devient pour mille et une raisons et autres que ce qui peut venir de nos parents, Dieu merci, et qu'on peut toujours transcender ou sublimer de toute façon pour acquérir sa propre liberté, sa propre solitude. Et c'est peut-être ça la leçon de l'art aussi, c'est quand même de devenir soi-même.
Oui.
Et tous les deux deviennent eux-mêmes. Mais le problème de Chopin, c'est que il y a une fermeture et un étouffement, mais un étouffement aussi accentué par la maladie. Mais est-ce que la maladie n'est pas accentuée par une vision du monde un peu étouffante, étouffée? C'est ça aussi que j'essaye de souligner dans le livre. On est sur des territoires délicats, mais passionnants quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Moi,
et puis on peut faire des hypothèses. Hein
oui, mais plein.
Oui.
Mais on peut faire que ça, je crois, d'ailleurs. Voilà. Finalement, même les essais soi-disant musicologiques sont des fictions, Axel. Enfin, quelque part, on est
tout en mode fiction.
Comme diraient les jeunes. Mais j'aime bien la métaphore chez Chopin. Enfin, elle est de moi, mais que le piano soit à la fois son berceau et sa tombe, quoi.
Oui.
C'est l'image d'un berceau. Un piano, c'est quelque chose qui nous enserre. Et on peut rester dedans comme un enfant, prisonnier de lui. Et puis, du coup, cette drôle de caisse devient justement notre caisse finale, comme on aurait dit Pierre Rabhi, notre cercueil.
Mmh.
Et chez Chopin, il y a quand même... c'est un homme piano, mais... Et chez Liszt, le piano est une... Il le dit lui-même, hein, je lui vole ses mots, est un destrier, une monture avec laquelle il franchit les frontières, il séduit les femmes, c'est un instrument positif, actif. Chez Chopin, le piano, c'est pas qu'il est passif, mais il est plus réceptacle que agissant. Vous voyez, c'est là où ça devient intéressant de faire des essais sur la musique.
Tout à fait.
Sinon, vous voyez.
Oui.
Voilà.
Et alors, il y a aussi des moments où Liszt traverse une grande solitude, notamment après un moment à Paris, avant la Révolution, après la mort de son père, une déception amoureuse, tout ça, vous montrez très bien. Et vous montrez aussi comment son esthétique passe par une solitude extrême, je vous cite, pour côtoyer le néant. Et alors, il y a une phrase de lui, « La vie n'est qu'un suicide long et amer, et la foi seule peut transformer, a le pouvoir de transformer ce suicide en sacrifice. » Si on parlait aussi de leur douleur à l'un et à l'autre, peut-être aussi en tant que créateur, je ne sais pas. Enfin bon, la question est totalement ouverte.
Ce qui est complexe chez Liszt, c'est que ce n'est pas justement qu'un séducteur, un broyeur d'ivoire, il cache au fond de lui, vous l'avez dit, une douleur, une faille, quelque chose qu'il va porter en lui toujours. Et puis cette foi, là, il le dira, la folie de la croix a été ma vraie vocation. Et finalement, ça tranche avec l'image qu'on peut avoir de lui. Et c'est pourtant ce qu'il accomplira au fur et à mesure de son existence, et que son œuvre deviendra de plus en plus dépouillée jusqu'à accéder presque au silence. Et puis il y aura, on le sait très bien, sa façon d'être franciscain jusqu'au bout, c'est-à-dire de prendre les ordres mineurs en 1865 et de devenir le fameux abbéliste. Alors, on est très loin du séducteur des femmes hystériques ou pas. Hein. C'est tout à fait. Quoique, jusqu'à la fin, vous savez, dans les souhaits de Liszt, il y avait le fait de ne pas comprendre le vœu de chasteté. Pour prendre les ordres, c'est les ordres mineurs, donc il n'y a pas de vœu de chasteté, ça il y tenait. Donc quand même, c'est pas tout à fait la réclusion, le renoncement, tout ça.
Mm-hmm.
Mais vous avez raison, en fait, et toute sa vie sera teintée quand même un peu de cette amertume sous-jacente et d'un pessimisme profond, sans doute. Liszt, c'est pas que la gloire et le soleil, c'est aussi des ténèbres un peu mystérieuses et douloureuses. Oui, vous parlez de douleur, mais en revanche, c'est pas un créateur douloureux, Liszt. Je pense un créateur dionysiaque.
Mm-hmm.
Mais il y a des œuvres très intérieures et très Évidemment, là, pour l'instant, nous, on digresse sur tout ça, mais ça reste avant tout un grand génie de l'histoire de la musique, Liszt. Hein.
Oui, oui.
Donc, il y a tout dans sa musique. Il invente les poèmes symphoniques, il invente mille choses. Mais la douleur de Chopin paraît en fait plus visible à tous. On l'entend plus facilement, si je puis dire, dans sa musique. Elle traduit cet exil, cette séparation, tout ce qu'on veut. Mais en fait, elle existe aussi chez Liszt, oui, à sa façon.
Et puis, ils ont eu une infinité de moments de bonheur aussi, on l'espère. Vous avez évoqué aussi leurs amours avec la comtesse Marie d'Agoult, avec George Sand. Alors, c'est vrai que c'est incroyable, parce que deux écrivaines qui ont, je crois, le même écart d'âge, plus ou moins avec eux, elles sont chaque fois un peu plus âgées. Et vous écrivez femmes libres et scandaleuses, féministes avant l'heure. Alors, il y a aussi, ils vivent plein de choses, puisqu'ils ont une magnifique histoire avec ces femmes. Mais après ça, elles peuvent aussi se venger un peu avec
Elles sont symétriques, il y a la brune et la blonde. Elles ont un côté semblable, elles vont bientôt s'envier l'une l'autre. Enfin, c'est plutôt Marie d'Agoult qui va envier George Sand. Donc ça va un peu détruire aussi l'amitié des deux garçons. Vous parliez de moments de joie, de choses comme ça. Mais bien sûr, quand ils se rencontrent à Paris en 31, ils ont tous les deux un peu moins de 20 ans, à peine 20 ans. Et c'est des jeunes. Chopin n'est pas encore malade comme il va devenir. Donc ils font la fête, ils vivent à Paris ce qu'on vivrait tous, ce qu'on a tous vécu, j'espère, à cet âge-là. Mm-hmm. Et ils rencontrent Mendelssohn, ils rencontrent d'autres génies. Ils font les idiots avec Berlioz. Hein, donc c'est aussi des jeunes gens. Il faut toujours rappeler ça, c'est pas des romantiques, c'est pas des cons passés qui pleurent à la lune ou je sais pas quoi. C'est des jeunes gens fêtards et braillards et révoltés, et politiquement révoltés. Liszt est comme George Sand, on dirait à l'époque, mais bon, il y a longtemps, le mot avait une autre saveur, des vrais socialistes. dérangeants, bousculants, qui sont contre la morale établie bourgeoise. C'est pas pour rien qu'ils vivent 1830, quand même, les Trois Glorieuses, Louis-Philippe, c'est la monarchie de Juillet, c'est pas rien en France. En France, c'est pas rien. Donc, ils prennent tout ça, la Révolution. Comme dit Lys, c'est les coups de canon qui m'ont réveillé, parce qu'avant, il s'endort, comme vous dites, il fait une dépression, une rupture amoureuse, tout ça. Et 1830, le réveil, et c'est quoi? C'est les Trois Glorieuses, c'est la Révolution. Le romantisme est une révolution. Et les femmes, poétesses, la écrivaine, assez géniales à leur façon, enfin surtout Georges Sand, mais Marie Dagout est très estimable aussi, hein, à sa façon, les accompagne dans ces mouvements d'âme et qui sont des choses de vie qui peuvent être, oui, joyeuses et révoltées. Et Chopin devait être beaucoup plus extérieur à cette époque-là, je pense. Lys raconte d'ailleurs qu'il aurait été volontiers un peu révolutionnaire, socialiste, on dirait, puisque ça lui est passé en fait. Parce que par nature, il est beaucoup plus conservateur. Ils sont très différents.
Oui,
et là Lys... aussi.
Oui, pardon.
Chopin est conservateur. Lys, oui, vous disiez, je vous en prie.
Oui, que Lys va aussi rencontrer des penseurs, il va s'intéresser à la situation de l'artiste, il a un côté engagé aussi très fort, il a beaucoup de facettes différentes. Hein. À un moment,
bien sûr, oui.
Vous écrivez, il appelle les artistes à jouer devant les tableaux du Louvre pour stigmatiser l'enfermement, ça a fait certains échos.
Mais vous avez raison, parce que moi j'aime aussi particulièrement ce passage où il invente des choses qu'on devrait déjà avoir mis en place, nous, depuis longtemps. C'est-à-dire, au lieu de que chaque art soit de son côté bien tranquille, associé, mélangé, faire coexister des passerelles comme ça entre tout et tout. Et lui, il dit, mais pourquoi au Louvre, au lieu de regarder sagement les tableaux, on ne met pas des pianos, des musiciens devant pour accompagner tout ça et rendre la visite moins scolaire, moins sage. Vous voyez, il dit plein de choses comme ça, il a une vingtaine d'années seulement.
Oui, oui.
Mais aujourd'hui, on n'a pas entendu tous ces messages de lui ou d'autres.
Oui, oui. C'est très touchant.
N'oublions pas que... Oui, je vous en prie.
Non, non, je vous écoute.
N'oublions pas que là, on parle de Liszt et Chopin, mais il y a un Liszt après Chopin, évidemment, on l'a dit, on sait pourquoi.
Oui.
Et là, il y a le Liszt qui connaît Wagner, qui connaît d'autres compositeurs, et qui est toujours en effervescence, politiquement et autres, où il va se passer beaucoup d'autres choses, d'autres révolutions aussi. Et Liszt a comme plusieurs vies, mais il est toujours en mouvement, tout le temps. Enfin, sauf quand il commence à renoncer à fréquenter le pape et à vouloir accéder à écrire la musique d'église du Vatican, imaginez. L'aurait perdu. Oui.
C'est très touchant et admirable, le courage qu'ils ont est vraiment très, très touchant. Parce que Liszt, donc, vous l'exprimiez, il avait l'impression de n'être personne. Alors, pour devenir quelqu'un, il fait beaucoup d'efforts. Finalement, il dépasse tout le monde. Et Chopin, avec sa timidité extrême, il va quand même donner des concerts. Et avec Georges Sand, qui va le soutenir. Et une fois qu'il a dit oui, ça y est, toute la machine est lancée pour ce concert. Et donc, chacun va vaincre quand même quelque chose et va témoigner d'une audace et d'un courage à sa manière. Et au moment où Chopin donne le concert, Liszt est dans la salle. Donc, il y a aussi cette fraternité entre eux qui est belle.
Et un héroïsme de nature différente, mais comme un ou deux, vous avez raison. Oui, Liszt, il va se permettre de faire deux grandes critiques, parce qu'il est aussi ça, Liszt, des concerts de Chopin, bien connus, en 1832, je crois, et 41. Donc, c'est drôle, il va témoigner de cet art merveilleux et très, très, très étrange, presque vénéneux, quelque part, qui se déploie devant tous. Du courage, bien sûr, mais ils n'ont pas le choix d'être autre chose que ce qu'ils sont. Surtout Liszt, Chopin est sans doute plus dans l'affrontement vis-à-vis de lui-même, si je puis dire. Il est obligé de dépasser son exil, ses peurs, sa maladie aussi. Et je pense qu'il est encore plus admirable dans cette lutte et cette quête, Chopin, parce qu'il n'est pas là à conquérir les foules comme Liszt, vous voyez, justement.
Oui.
Il est seul. Et s'il vient à Nohant avec Georges Sand, c'est pour trouver cette paix, ce calme où il peut créer, mais il n'a que ça pour lui. Et pour qui, pourquoi? C'est nous aujourd'hui, évidemment, Chopin, quel nom, mais pour lui, à l'époque, C'est pas très simple de satisfaire de cette posture. D'être entretenu quand même par une dame célèbre qui fait bouillir la marmite et qui écrit pour ça, George Sand, et qui le dit, qu'elle écrit aussi pour ça, alors que lui peine misérablement à vendre ses quelques partitions, parce que c'est un art quand même rare, celui de Chopin. Donc c'est... On ne peut pas toucher à ça de notre vision à nous, ce quotidien qui devait être le leur.
C'est vrai.
Où il n'y avait pas CNews ou BFM ou pour faire retentir je ne sais quelle trompette de la renommée, où on s'écrivait encore à l'époque, on n'avait pas d'écran, où on n'avait que ça à faire, que d'écrire, créer ou faire la fête normalement entre humains, sans que rien ne s'interpose, vous voyez, dans la relation.
Ça résonne comme une invitation.
Ah oui, moi, vous n'avez pas tort, vous avez bien compris.
Mais évidemment, évidemment, oui, c'est tellement inestimable, et donc c'est, enfin, l'invitation à, oui, ne pas se faire hypnotiser par tous ces écrans et vivre avec un grand V.
Par exemple, on s'étonne toujours du nombre de lettres que ces gens ont pu écrire, ou même de leur composition. On lit, c'est un nombre énorme d'œuvres et puis de transcriptions et de paraphrases. Mais on se dit, mais comment il avait le temps ? Souvent, on me demande ça, mais ils disent comment il avait le temps de vivre, de séduire, de faire tous ses concerts en 10 ans, sa période de gloire. C'est des centaines de concerts où il traverse les frontières. Et à côté de ça, quand même, il transcrit, il compose et il écrit des centaines de lettres. Mais comment ?
Oui,
avec
fou.
Quelle énergie ?
C'est fou.
Et il fait la fête avec Berlioz, avec d'autres, mais comment ?
Oui, c'est
mais on n'avait pas la même conception de l'économie, de l'énergie et du repos à l'époque. On n'était pas là pour se reposer dans la vie. On était là pour contempler des écrans de télévision, pour être passif. On était là pour être actif tout le temps, entreprendre tout le temps, communiquer tout le temps, faire des choses tout le temps.
Oui.
Vous voyez, on disait pas, il n'y avait pas les RTT la semaine de 35 heures. C'était évidemment un autre mode de vie, avec aussi des victimes de tout ça. Je ne suis pas en train de prôner ne sais quel retour en arrière. Mais je constate des choses d'un point de vue simplement de l'humain. Nos capacités. De nos capacités que souvent on peut mettre en sommeil ou laisser s'endormir au profit de rien. Alors qu'elle ne demande qu'à s'épanouir et qu'il faut qu'elle s'épanouisse. Sinon, c'est pour ça que la maladie arrive. C'est quand la vie n'est pas assez forte.
Exactement.
Pas assez grande.
C'est aussi se laisser accueillir de la passion et le vivre.
Mais oui.
Oui, oui.
Mais vous avez raison.
Mais en fait,
les choses.
Finalement, l'humanité traverse certaines périodes. On pourrait imaginer une période comme ça.
Mais si on vit. Mais eux, ils ont eu la leur.
Oui, oui.
Si on lit ce qui se passait en 1832, le choléra, ça rigolait pas. Hein. Et quand même, Liszt allait voir Victor Hugo, je me rappelle, ils font des choses, ils jouent encore devant ceci, cela. Le choléra décime 2-3 personnes, des gens connus, je crois, qui est mort du choléra. On ne sait pas, Stendhal, Mérimée, enfin, on a quand même nos victimes proches, leurs copains, ça, ils tombent, mais eux, ils sont pas là à attendre quelques protections, que ce soit du ciel ou d'ailleurs. Ils avancent, ils vivent et que. Avec leur énergie. Oui, je voulais vous dire, j'ai un ami thérapeute, j'aime beaucoup, il m'a dit une fois, quand on est amoureux, on n'est jamais malade.
C'est magnifique.
J'aime bien cette formule, si on comprend bien ce qu'elle contient.
Oui, tout à fait.
De vie contre la non-vie, en fait. De toute façon, se remplir de tout et de déployer une énergie qui nous protège, en fait.
Oui.
Qui nous protège. C'est pas l'extérieur qui... De nous protéger, c'est nous-mêmes ce qu'on est capable de déployer. Enfin, en tout cas, ces gens, bon, même si Chopin, ça a été court et limité, déployer une énergie invraisemblable. Mais ils avaient que ça à faire.
Thank you.
grand merci. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou de dire ce que ce livre vous a apporté quand vous êtes arrivé au point final? Qu'est-ce que cela vous a apporté de plus extraordinaire d'écrire ce livre-là?
Moi, ça m'apporte plutôt pendant et avant, quand je l'imagine et quand ça me tombe dessus, parce que quelques mois avant, je n'aurais pas pensé écrire là-dessus. Alors qu'en fait, après, ça m'a semblé évident que je devais, moi, faire ce livre. Alors que je... Vous savez, des fois, c'est évident, c'est à côté de soi, on ne le voit pas, hein, très souvent. Oui. Donc, je l'ai vu, je l'ai fait, et ça m'a apporté beaucoup pendant. Puis j'ai découvert des choses, quand même, quand on regarde de près. Et surtout ce côté que vous avez parlé d'influence, de Liszt, de Chopin, pardon, sur Liszt, influence consciente ou pas, ça m'a beaucoup troublé. Après, le point final n'apporte rien, en fait. C'est comme... Non, mais je sais pas, il y a un côté, à chaque fois qu'on accouche d'un livre, bah, c'est fini, et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre, qu'est-ce qui va... Mais on l'abandonne.
D'accord.
C'est pas plus douloureux que ça, mais d'un seul coup, ça nous intéresse plus. Il y a un côté comme ça.
D'accord.
Pendant, il fallait... On ne sait pas trop, des fois, d'ailleurs, comment ça se passe, quelle énergie, en fait, nous traverse pour ça. Mais quand c'est fini, c'est pas pour regarder en arrière, en tout cas. Moi, je ne suis pas comme ça du tout.
Mm-hmm.
C'est encore devant.
Est-ce que vous voulez parler d'un projet ou d'un rêve que vous avez?
Mes rêves, je ne les connais pas forcément d'avance. Ils viennent, ils sont générés par les anciens, justement, par... je sais pas, je veux écrire des choses, mais je veux plus tellement écrire sur la musique. J'ai trop fait, par exemple. Ça, c'est ce que j'ai compris. Vous faites bien de me parler de tout ça, en fait. Merci. Quand j'ai fini ce livre, c'est que je voulais plus écrire sur la musique. Je l'ai fait beaucoup. La musique me sert à écrire tout court. Mais j'avais fait un peu le tour de beaucoup de choses qui me sont arrivées, comme un destin, la boucle était bouclée avec ce Chopin et Liszt. C'est que maintenant, je voulais écrire ce que j'ai déjà fait, mais d'autres choses, mais plus sur la musique. Pas comme ça, en tout cas. Pas directement, avec des compositeurs. Non. J'ai compris que ça, c'était fini. Que je passais à autre chose. Et sans regret, ni deuil quelconque, je sais pas quoi.
Non, ça n'a pas l'air triste.
Mais donc, vous ne me reverrez jamais, Axel, pour... Tiens, vous avez fait un Schumann, un Schubert, un machin. Non, c'est fini, ça.
D'accord, ça va. Surprise, alors.
Non, mais... pour pas trop se répéter aussi.
D'accord. Un très, très grand merci pour ce beau voyage.
C'est moi qui vous remercie pour cette liberté de parole que vous me donnez, parce que ça, c'est rarissime.
Ah, c'est vrai?
Oui. Je connais pas beaucoup d'équivalents. Je connais même pas d'équivalents dans nos ondes bien-aimées et françaises. Donc, bravo. Mais oui, ça n'existe pas, oui.
C'est que du bonheur, voilà. En tout cas. Merci beaucoup. Et
réciproquement, merci à vous.
Merci beaucoup. Merci à Delphine. Merci à Thierry. Et tout du bon pour tout le monde. Hein.
Merci à tous.
Merci, à bientôt, Axel.
À bientôt. Au revoir. Thank you. La berceuse en ré bémol majeur de Frédéric Chopin par Maria Joao Pires. Et c'est la fin de cette émission sur la musique et les lettres. Ce soir, nous étions en compagnie de Jean-Yves Clément qui parlait de son livre Chopin et Liszt, La magnificence des contraires, paru aux éditions Première Loge. Merci encore à lui. Il signe également la programmation musicale de cette émission. Nous avons aussi entendu de Franz Liszt des chants polonais de Frédéric Chopin, sous les doigts de Claudio Haro, ainsi que l'étude opus 25 numéro 11 de Chopin par Jan Ligiecki, la polonaise en mi majeur de Liszt par Stephen Hoff, qui interprétait aussi une berceuse signée Franz Liszt. Merci à Cyriel Court pour la réalisation de cette émission, que vous pouvez retrouver dès demain matin sur le site de Musique 3. Je vous souhaite une très belle